Salut, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, quels rôles et obligations pour les plateformes de diffusion en continu en matière de représentation des artistes de toutes origines? Les panélistes du premier forum sur l'avenir des contenus culturels numériques de Toronto fouillent la question.
Dans le domaine numérique, il faut justement reprendre cette place qui nous a permis d'innover en mettant à jour les cadres réglementaires, les règlements, les règles du jeu, parce que la diversité, ça n'arrive pas par magie.
L'espace Madavik d'Edmundston reçoit 2,6 millions de dollars d'Ottawa pour favoriser l'inclusion sociale des jeunes vulnérables dans les régions de Madawaska et Victoria, au Nouveau-Brunswick.
Ça s'adresse à des jeunes qui ont été victimes ou témoins de violence, qui sont victimes ou témoins de violence, en fait, de l'âge de 15 à 30 ans. Ça va se passer un peu partout au nord-ouest, dans la région. On va avoir des espaces thérapeutiques physiques, un à Edmundston et un à Grand Sault.
Toujours au Nouveau-Brunswick, une soixantaine de passionnés de jardinage se donnent rendez-vous pour lancer la saison.
On est quand même une communauté rurale. Il y a comme, je pense, 150 jardins chez les gens. Puis on en veut plus. On n'est pas loin de nos racines, finalement, ici. Le jardinage, ça a toujours fait partie de la vie des gens ici.
C'est bon pour le foie, le pissenlit, la marguerite aussi, elle a plusieurs propriétés médicinales, mais c'est surtout bon au goût. La marguerite est vraiment bonne.
Ceci et un peu plus à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJ. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être là. L'Université de l'Ontario français à Toronto accueillait la semaine dernière son premier forum sur l'avenir des contenus culturels numériques au Canada. L'université invitait plusieurs experts du secteur à échanger autour des questions de la découvrabilité et de la traçabilité des productions artistiques francophones et autochtones canadiennes, mais aussi sur le rôle et les obligations que doivent avoir ces mêmes plateformes de diffusion en continu, ceci alors que le projet de loi C-11 sur la radiodiffusion, loi modifiant la loi sur la radiodiffusion au Canada, vient d'être sanctionné par le Sénat canadien. Avec le numérique, les frontières s'effacent et les contenus culturels en langue minoritaire se retrouvent souvent noyés dans un océan anglophone, voire planétaire. Il a donc été question lors de ce premier forum de la responsabilité des plateformes à l'égard du financement de la production culturelle et de la présentation des contenus culturels canadiens. Marine Autogali, postée à Toronto, a d'abord offert une tribune à Caroline Isautier, modératrice du forum, laquelle pose la question qui a été au cœur de tous les débats.
Maintenant, vous et moi, on accède à la musique, à la vidéo via des plateformes numériques. Comment faire que la musique francophone soit mise en avant alors que ces plateformes sont des GAFAM, sont américaines et ont tendance à privilégier le contenu anglo-saxon?
Cette question, elle a été abordée par des universitaires, des experts, des représentants d'organismes culturels, mais aussi des artistes. Ils et elles se sont réunis dans le cadre du premier forum sur l'avenir des contenus culturels numériques au Canada, dans l'Agora de l'Université de l'Ontario français. Alors que la loi C-11 sur la radiodiffusion a été acceptée au Sénat, ce forum a exploré les problématiques liées à la découvrabilité et la traçabilité des œuvres d'artistes de langue minoritaire, qu'ils ou elles soient francophones ou autochtones. En tant que fondatrice et directrice de l'association Technoéthique, Caroline Isautier était invitée afin de modérer les panels de la journée.
Alors, je suis là, mandatée par l'Université de l'Ontario français. J'anime une association qui s'appelle Tech for Good Canada, Technoéthique en français, qui milite pour un numérique responsable en général. Et on m'a demandé d'animer cette discussion sur les enjeux culturels, les enjeux politiques et économiques autour de la culture à l'ère numérique. Et donc, ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis. Dans le cadre de l'impact sociétal du numérique, en fait.
Prévu depuis plusieurs mois, le Forum sur l'avenir des contenus culturels numériques au Canada tombait à point nommé.
C'est important parce qu'il y a une loi qui vient de passer au Canada qui s'appelle la loi C-11, qui est enfin passée et qui fait en sorte que les plateformes de streaming, donc de, comme ils disent en français, de diffusion continue, soit aussi réglementé par un organisme de régulation canadien qui s'appelle le CRTC et qui réglemente déjà les radios et les télés. Donc on est là pour parler, et dans cette loi, il est stipulé que le contenu minoritaire, donc francophone et autochtone, doit être mis en avant. Et donc, on est là pour parler des enjeux autour de la mise en œuvre de cette loi pour les populations francophones et autochtones au Canada.
Pour examiner ces inquiétudes, le forum s'est découpé en deux grands axes majeurs.
Eh bien, en fait, c'est deux volets de la même thématique. C'est-à-dire, on commence large sur les enjeux politiques et économiques de la culture à l'ère numérique. On parle de la loi C11 dans son ensemble et ensuite, on va rentrer dans la deuxième partie sur la mise en application plus technique, plus concrète. Et on va aussi avoir des représentants autochtones dans la deuxième partie. Donc, ce sera intéressant parce qu'on a plus des représentants francophones dans la première partie et autochtones dans la deuxième.
Au cours de la révolution numérique, il a parfois été question de repenser les productions, car aujourd'hui les frontières sont inexistantes. Comment rémunérer les artistes? Combien est-on prêt à payer? Et qui doit payer? Le chercheur Pierre Trudel, professeur du droit des médias numériques à l'Université de Montréal, nous explique la nécessité d'une régulation.
Dans le domaine numérique, il faut justement reprendre cette place qui nous a permis d'innover en mettant à jour les cadres réglementaires, les règlements, les règles du jeu dans lesquelles tout ça fonctionne. Parce que ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas de façon automatique. La diversité, ça n'arrive pas par magie. Ça prend des obligations. Il faut que ceux qui tirent des revenus du système de diffusion d'émissions au Canada soient tenus d'en réinvestir une partie pour assurer justement cette diversité et cette inclusion.
Pour tous les panélistes, les enjeux du numérique sont apparus à la fois comme économiques et politiques. Frédéric Letendre, associé, avocat fondateur de Ulex, a exprimé son point de vue. Spécialisé en propriété intellectuelle, sa clientèle œuvre principalement dans le numérique, tels que des créateurs de contenu ou de plateformes.
On doit repenser la réglementation du web en général ou du numérique de façon virtuelle et non pas avec des frontières physiques. On parlait tout à l'heure de portée extraterritoriale. Si on veut réglementer ce qui se fait, les entreprises qui sont ailleurs, qui agissent chez nous, il faut avoir le droit d'effectivement poser des gestes à l'égard de parties qui ne se trouvent pas sur notre territoire.
En lien direct avec les artistes, Marie-Christine Morin, directrice générale de la Fédération culturelle canadienne-française, porte-parole du secteur artistique et culturel en francophonie canadienne et acadienne, espère que tous les besoins des acteurs seront entendus.
C11 a eu la sanction royale, mais le travail ne fait que commencer. On doit s'inscrire dans le cadre réglementaire, on doit faire aussi du travail pour que justement cette loi-là soit opérationnalisable, puis qu'on puisse voir les effets sur le terrain. Donc, ça va être intéressant d'entendre les joueurs aujourd'hui arriver avec leur vision, leurs souhaits, leur ambition.
Mais les enjeux vont plus loin que la loi C11 et il faut en discuter. Marie-Christine Morin.
Je pense que c'est un élément parmi tant d'autres. L'enjeu de découvrabilité et puis de traçabilité, ça va au-delà de la radiodiffusion, c'est clair. On le voit dans plusieurs disciplines aussi. Et puis l'enjeu de la souveraineté culturelle, elle se joue à plusieurs niveaux. Oui, à travers le projet de loi, la loi maintenant sur la radiodiffusion, mais plein d'autres leviers sur lesquels il faut qu'on s'appuie pour la protéger. Mais c'est évident que avec le déclin de la langue française auquel on assiste, il y a une préoccupation particulière qu'on doit mettre sur cet enjeu-là. Les enjeux de découvrabilité, de traçabilité, évidemment, de pouvoir retrouver ces contenus-là francophones dans une mer de contenus, pas seulement anglophones, mais planétaires, c'est très important et on doit porter un regard particulier là-dessus. Ça fait partie de l'identité canadienne aussi. Donc, je pense qu'on doit s'y pencher de façon particulière.
Cette transformation numérique du milieu artistique souffre d'un manque d'accompagnement. À titre d'exemple, Florent Volant, auteur, compositeur et interprète d'origine innue, a témoigné de son impossibilité de s'identifier sur les plateformes, tout simplement car l'étiquette « artiste autochtone » n'existe pas. Une nouvelle fois, certains artistes risquent de ne pas pouvoir embarquer dans l'aventure s'ils ne sont pas capables de s'exprimer dans ce langage technique. Marie-Christine Morin, contributrice des recommandations de la loi C11, pense sur le long terme.
Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et il y a un langage technique. Il faut percer ce langage technique-là pour pouvoir comprendre où sont les vrais blocages, les vrais enjeux, puis proposer des solutions qui vont être intéressantes et puis durables. Je pense que les efforts qu'il faut qu'on fasse en découvrabilité, en traçabilité, ce sont des efforts qu'on espère durables. Donc, je veux dire, on ne veut pas juste intervenir maintenant pour pas que ça serve dans 5 ou 10 ans d'ici. Je pense qu'on veut être capable de pouvoir faire en sorte que l'écosystème est mieux outillé que ce qu'il était et être capable de créer, de diffuser des contenus qui sont après ça accessibles.
C'était un reportage de Marine dans le cadre d'Initiative Journalisme Local.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
L'escale de Madavik d'Edmundston reçoit 2,6 millions de dollars pour favoriser l'inclusion sociale des jeunes vulnérables. Ce financement va lui permettre de lancer ses futurs espaces thérapeutiques collaboratifs dès la rentrée 2023. Il s'agit d'espaces thérapeutiques physiques, mobiles et virtuels dédiés aux jeunes qui ont été témoins ou victimes de violences familiales, y compris les jeunes femmes, les jeunes francophones, les autochtones et les personnes vivant dans des communautés rurales éloignés au Nouveau-Brunswick. Au total, 17 projets ont été financés par Ottawa. Escale Madavik œuvre auprès des victimes de violences et leurs enfants dans les régions de Madawaska et de Victoria, Madavik. Les précisions de Mathieu Janvier à Edmundston au Nouveau-Brunswick.
L'annonce a été faite hier et c'est une excellente nouvelle que ces 2 620 000 $. L'Escale Madavik bénéficie ainsi du financement du volet enfants-famille du programme de partenariat pour le développement social. Et face au nombre d'applicants, c'est une véritable réussite pour cette institution sociale d'Edmundston, comme l'explique le député fédéral René Arsenault.
655 applications nationales, 17 seulement à l'échelle nationale ont été retenues, dont l'Escale Madavik, puis on a presque doublé la moyenne de ces 17-là en termes d'aide financière à 2,6 millions. Donc, il y a de quoi lever son chapeau pour les gens du Madawaska Restigouche, mais surtout pour l'équipe d'Escale Madavik.
Grâce aux fonds récoltés, l'Escale Madavik va ainsi pouvoir étendre ses moyens d'action pour aider les jeunes en difficulté, selon Éric Boutot, coordinateur des programmes.
Ça s'adresse à des jeunes qui ont été victimes ou témoins de violences, qui sont victimes ou témoins de violences, en fait, de l'âge de 15 à 30 ans. Ça va se passer un peu partout au nord-ouest, dans la région. On va avoir des espaces thérapeutiques physiques, un à Edmundston et un à Grand Sault. On va aussi faire un espace mobile sous forme de minivan, si vous voulez, où on va pouvoir se déplacer dans toutes les municipalités rurales pour aller rejoindre ces jeunes-là, puis faire des ateliers de thérapie par l'or avec eux.
Un programme prometteur qui va permettre de répondre à un réel besoin, ainsi que l'explique Charlotte Côté, directrice de l'Escale Madavik.
Puis je me suis aperçue que les jeunes qui ont des difficultés à s'exprimer, souvent par l'art, c'est une façon de débloquer des émotions.
C'était Charlotte Côté, directrice de l'Escale Madavik au micro de Mathieu Janvier. L'Escale Madavik avait en 2018 obtenu des gouvernements provincial et fédéral près de 350 000 $ pour rénover une maison de transition de 15 lits située à Edmundston.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bon, c'est le temps de jouer un peu dans la terre et de parler jardinage. Les Canadiens qui en feront un sport national au cours des prochains mois, car le temps est compté jusqu'à la saison des récoltes de l'automne prochain. Au Nouveau-Brunswick, une soixantaine de passionnés de jardinage se sont donné rendez-vous le 13 mai dernier afin de partager leur passion pour les fruits, fleurs et légumes, mais aussi pour aller chercher quelques conseils à l'aube de la saison estivale auprès de la boussole communautaire Restigouche-Ouest, fondée en 2021, de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, voici Maxime Gauthier.
Une soixantaine de passionnés de jardinage provenant de la région se sont rassemblés à la boussole communautaire du Restigouche-Ouest. Des jardiniers bien connus de la région étaient présents à titre d'exposants pour partager leurs connaissances et compétences sur différentes techniques reliées à l'horticulture maraîchère, de la préparation du jardin, de la plantation jusqu'à la récolte. Bref, la boussole communautaire du Restigouche-Ouest s'est pratiquement transformée en jardinerie pour cette journée. Celle qui a pris le mandat d'organiser l'événement nous a accordé quelques minutes. On écoute Mme Arlene Bailey nous en parler.
Ils ont toutes des connaissances dans le jardinage. Puis, en plus de vendre leurs semences et leurs plants, il y a eu beaucoup de jasettes aussi à propos du jardinage, comment s'y prendre. Puis, des connaissances techniques pour entretenir un jardin aussi. Fait que on est quand même une communauté rurale. Il y a comme, je pense, 150 jardins. chez les gens. Puis on en veut plus. On n'est pas loin de nos racines, finalement, ici. Le jardinage, ça a toujours fait partie de la vie des gens ici.
Une exposante est venue partager ses connaissances en matière de germination. On écoute le docteur Stéphanie Aubu nous en apprendre à ce sujet.
C'est super accessible, c'est peu coûteux. Fait que dans le fond, on peut germiner toutes les sortes de légumes, sauf les solanacées, c'est-à-dire tomates, poivrons, aubergines, patates. On peut germiner toutes les légumineuses puis tous les graminées, c'est-à-dire genre quinoa, blé, seigle, tout ça. Puis le processus est super simple. Faut juste faire tremper puis après ça rincer deux fois par jour. Puis là, ça fait de jeunes pousses. Et qu'est-ce qui est super trippant, c'est délicieux, ça goûte bon, c'est accessible puis c'est super concentré en vitamines et minéraux.
Un défi avec lequel la plupart des jardiniers doivent composer constamment, on s'en doute, ce sont les mauvaises herbes. Par contre, il peut s'avérer utile d'identifier celles qui sont comestibles et même bonnes pour la santé. On écoute Madame Julie Turcotte.
Quand on commence à préparer notre jardin là, au printemps, y a beaucoup de mauvaises herbes qui commencent à pousser. Entre autres, il y a la marguerite, c'est les premières feuilles là, qui poussent. Les jeunes feuilles, ça se mange. Il y a le pissenlit que tout le monde connaît. Je pense que la plupart du monde sont capables de le reconnaître. Les jeunes feuilles de pissenlit se mangent aussi. On peut manger ça en salade, sauter dans le poêlon. C'est un petit peu amer, mais ça fait un bon petit légume de printemps. C'est bon pour le foie, le pissenlit. La marguerite aussi, elle a plusieurs propriétés médicinales, mais c'est surtout bon au goût. La marguerite est vraiment bonne. Il y a l'onagre aussi. L'onagre, ça fait comme une rosette dans notre jardin, puis ça fait des fleurs jaunes plus tard. Ça, c'est sûr que c'est bon d'avoir un livre pour les reconnaître, s'assurer. Ça, c'est la règle en cueillette. Il faut s'assurer à 100, à 1000% qu'on sait exactement de quoi on mange. Malgré que dans le jardin, il y a peu de plantes sauvages toxiques, là, mais c'est important de s'assurer de bien les identifier. Quoi d'autre qui pousse au jardin? Il y a le galin soga, le myosotis des bois, des foies. Il y a l'ortie. L'ortie, tout le monde connaît l'ortie qu'on peut se piquer après. L'ortie, c'est une excellente plante. Ça goûte bon. On peut faire des potages d'ortie. Des salades d'ortie, il faut prendre des gants là, pour la cueillir, la laver puis la hacher. Plus de mauvaises herbes qui se mangent que de mauvaises herbes qui se mangent pas. Il y a le chou gras, tout le monde. La plupart des gens connaissent le chou gras. Là. On dit jeter ses choux gras, ça veut dire qu'on jette un aliment qui est vraiment bon pour la santé puis qui est bon au goût aussi. Là. Au printemps, quand je commence à préparer mon jardin, je me fais une salade avec qu'est-ce qui pousse.
De nos jours, les jardiniers et jardinières ont la possibilité d'utiliser la technologie, entre autres pour améliorer le rendement de leur serre grâce à l'automatisation. On écoute M. Inocterio.
J'ai été invité pour pouvoir présenter des choses d'automatisation dans les serres ou dans les jardins. Surtout au niveau, là, tu sais, comme le monde, on veut, dans le fond, irriguer. Tu sais, on veut mettre de l'eau puis, sans passer plein d'heures à arroser à hose ou... Fait que là, il y a des manières de faire. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut acheter facilement sur Amazon, des genres de petites switches intelligentes qu'on peut contrôler avec notre téléphone. Puis là, ben tu payes sur le piton, puis ça active une valve. Il y avait ça des valves électriques. La valve, elle, ben elle rouvre. Soit que c'est un sprinkler qui part, soit que c'est du goutte à goutte, dépendamment de ce que tu as plugué ta valve sur quoi. Dans la serre, dans le fond, on va gérer la température. S'il fait trop chaud, on va partir soit des fans, ouvrir des portes ou des fenêtres. Moi, je trouve que d'investir une couple de 100 piastres dans un système d'irrigation qui se fait tout seul, de 6 à 7, ça s'arrose, c'est fini, tu fais d'autres choses. Je trouve ça que c'est le best. T'sais.
L'événement s'est terminé avec une conférence offerte par M. Georges Phillips, jardinier bien connu au Restigouche-Ouest pour l'ampleur et la qualité de ses jardins. Celui-ci a généreusement partagé ses connaissances en proposant des conseils pratiques à ceux et celles qui jardinent cet été. Voici un extrait de la conférence de M. Georges Phillips.
L'emplacement. Mettez-vous toujours dans la tête que quand vous faites un jardin, si vous vous mettez à vous faire briller en arrière d'une bâtisse, probablement que vous allez rester la même couleur. Attends-toi pas que le soleil va te griller fort. Ça a même un fait pour la plante. Ça fait que quand vous allez choisir l'emplacement que vous voulez faire un jardin, mettez-vous l'idée que vous êtes tout nu et vous vous faites griller. Si vous trouvez votre terrain qui a une belle lumière, puis pas trop de vent, une place à juste que c'est. Déjà là, vous avez une place. Après ça, là, on va regarder la condition des sols. Un jardin, ça peut se faire n'importe où. C'est pas vrai que vous avez besoin de la meilleure terre dans le monde. Vous pouvez faire votre terre. Si vous avez une terre de roche, tu les ramasses des frais de roche. C'est sûr qu'il y a des roches, tu n'iras pas de soumettre ton jardin dans un pic de sable. Mais s'il y a une terre jaune, puis il y a une terre qui peut être quand même fertile, vous pouvez la faire, vous les enlevez des roches, vous pouvez faire venir une ramasseuse à roches pour les ramasser. Bon, on s'entend bien que si vous commencez des petits jardins, vous ne devez pas avoir l'idée de faire des 4-5 heures de jardin. Là. Vous l'avez juste pour soigner votre famille. Ça fait que choisissez-vous, après que vous avez trouvé l'emplacement, vous avez trouvé le type de sol, là, vous pouvez rajouter des fumiers. Parce que je pense bien que tous vous autres, vous ne voulez pas aller dans le fumier. Moi, j'aime mieux personnellement user toujours un fumier frais. J'ai travaillé 40 ans dans les animaux, puis moi, j'aime ça quand ça pue.
Monsieur Georges Philippe a su capter l'attention du public pendant près d'une heure et demie, le tout dans une ambiance interactive et surtout d'humour. Maxime Gauthier, journaliste IGL.
D'alphabétisation de la Nouvelle-Écosse participe pour la première fois au projet de l'alpha familial Notre Avenir, ceci afin de sensibiliser les enfants de 8 à 14 ans à des problématiques sociales et de les faire travailler en collaboration avec un adulte qui leur est proche, qu'il s'agisse d'un parent, d'un ami ou d'un autre membre de la famille. Ce projet pan-canadien, piloté par le Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences, est une initiative de Pluriel au Manitoba et du Collège Éducacentre de Colombie-Britannique. Adèle Gros-Perrin en parle avec Marie-Claude Huot, coordonnatrice du projet Alpha Familial pour l'équipe d'alphabétisation de la Nouvelle-Écosse.
Le but du projet, c'est d'encourager les familles à devenir des familles citoyennes, donc à s'engager dans leur communauté. Donc, l'équipe d'alphabétisation, on va recevoir les familles qui sont intéressées à participer. On va les recevoir dans des ateliers, donc il va y avoir une série de 6 ateliers où on va passer à travers un processus de réflexion sur le monde qui nous entoure, sur notre communauté, sur le sens de la famille, etc., sur nos valeurs personnelles. Et puis à travers ce processus-là, les familles vont tranquillement sélectionner un projet qu'elles aimeraient mettre sur pied. Alors, c'est pas l'équipe d'Alpha qui met les projets sur pied. Ça va être vraiment les familles. Nous, on est là pour les accompagner, pour les guider, pour les soutenir dans leur démarche. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit vraiment l'enfant dans la famille qui soit au cœur du projet et que ça soit lui ou elle qui choisisse le projet, que ce soit l'enfant vraiment qui ait une motivation pour un projet particulier et qui va poser le geste pour que l'adulte outille l'enfant pour développer ses compétences, avec l'idée que cet enfant-là, plus tard, il va avoir envie de continuer à s'impliquer. On outille le parent pour qu'il aide le développement, qu'il accompagne le développement de l'enfant, mais avec l'idée que dans ce projet-là, bien, il va avoir une passion commune. Alors, ils vont travailler ensemble. Alors, c'est l'idée de passer du temps ensemble et de se rapprocher. Peut-être que certaines familles sont déjà proches et qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais c'est l'occasion de faire une activité différente ensemble. On espère éventuellement avoir au moins 5 familles dans chaque région. Donc, 5 familles à Halifax et 5 familles en région rurale. Là, on en est à 4 ici à Halifax et on continue à faire notre recrutement. Parce que là, c'est notre première cohorte qui va commencer à la fin du mois de mai. Donc, de la fin du mois de mai à la fin du mois de juin. Mais ensuite, il va y avoir une prochaine session à l'automne et finalement une troisième à l'hiver. Les ateliers sont en français. On se limite pas aux francophones. On demande pas de curriculum aux gens parce qu'on sait que en Nouvelle-Écosse, hein, les familles qui fréquentent le CSAP, alors il y a souvent des familles exogames. Alors parfois, c'est un des parents est francophone, l'autre est anglophone ou vient d'un autre milieu culturel. Et aussi avec les immigrants, parfois les parents vont choisir, même s'ils ne sont pas francophones à l'origine, ils peuvent inscrire leurs enfants dans une école francophone. Les participants doivent minimalement comprendre le français pour pouvoir participer.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Et en terminant, on vous parle du relais pour la vie de l'école secondaire catholique de Castleman en Ontario qui reprend du service après une absence de plusieurs années. Le personnel de l'école et ses élèves tenteront d'amasser des dizaines de milliers de dollars pour aider les personnes atteintes de cancer à améliorer leur espérance de vie et leur qualité de vie. Plusieurs activités de collecte de fonds sont organisées dans le cadre de ce relais pour la vie, comme une marche à relais où les élèves qui sont constitués en équipe devront s'affronter dans une épreuve d'endurance et marcher de manière continue pendant 12 heures. Les détails avec notre nouvelle collaboratrice Rose Grisella à Embrun en Ontario. Elle parle du relais pour la vie avec Chantal Richer, enseignante, et une élève, Marie-Pierre.
Ça a été débuté par une ancienne élève qui avait elle-même été diagnostiquée par le cancer. Et puis, c'est Karine Charlebois, une ancienne élève. Puis depuis ce temps-là, on le fait. Ça fait 4 ans d'absence dû au COVID. Donc, on revient en force cette année pour une 9e édition du relais version scolaire.
En équipe, ils vont avancer le plus de dons possible. Puis pour les encourager à aller chercher des fonds au niveau de leur famille, leurs amis, puis de la communauté. Donc, dans le fond, on fixe des objectifs, puis ils ont des possibilités de récompense pour les encourager.
En fait, notre objectif cette année, c'est 40 000 $. Il y a 4 ans, on avait eu un objectif de 65 000 qu'on avait atteint. Bon, c'est dit, vu que ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait de relais, on va peut-être être plus réservé pour notre objectif, mais tu vois, on est déjà rendu à quelques milles du 40 000. Je pense qu'on a 37 000 ce matin. Donc, je pense qu'on va atteindre notre objectif parce qu'il reste quand même un autre gros 3 semaines. Fait qu'on va peut-être réévaluer notre objectif pour le fixer un peu plus haut, pour donner un défi à nos élèves.
Cette année, le thème, c'est film de tout genre. Donc, les élèves peuvent se déguiser en princesse, en film d'action, peu importe quel est le thème du film. Donc, c'est vraiment varié. Puis, c'est vraiment intéressant de voir toute la diversité au niveau des équipes puis des thèmes cette année.
Le gros thème de cette année, dans le fond, c'est 3, 2, 1, allumez vos caméras, le relais est de retour.
Et c'est là-dessus que prend fin cette édition de Point de vue. Nos journalistes cette semaine sont Marine Autogali, Maxime Gauthier, Adèle Gros-Perrin, Mathieu Janvier et Rose Grisella, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue est produite par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa avec la précieuse et évidemment indispensable collaboration de votre radio locale. Et on lui dit merci. Et à vous de nous tenir compagnie. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. À la semaine prochaine. Ciao.
Sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.